C'est 23.
Au réseau Cogeco, Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Jérémy Rainville.
On vous disait qu'il y a eu une transformation totale et complète de Patrick Roy derrière un banc. On a parlé de maturité, on a parlé d'un homme maintenant qui comprend un petit peu plus le rôle, qui fait une définition entre le management et le coaching, mais qui l'a déclaré ouvertement avoir un immense amour envers le métier de coach. Il a été avec lui, il a remporté la Coupe Memorial avec lui, avec les Remparts de Québec. Simon Gagné est avec nous. Salut Simon.
Salut Jérémy, ça va bien?
Ben ça va super bien, toi?
Ben oui, ça va bien.
Hey Simon, quand tu as su que Patrick retournait avec les Islanders, quelle a été ta réaction?
Surpris, pas surpris. Ça a été pas mal la question que le monde m'a posée aujourd'hui. Surpris parce que je m'attendais pas à ce que ça soit les Islanders de New York, une équipe qui est à quelques points de participer aux séries. On parlait beaucoup de rumeurs avec Ottawa, une équipe qui est vraiment en trouble, si on peut dire, mais pas surpris, par exemple, de le voir revenir dans la Ligue nationale comme entraîneur-chef. Je pense que c'est une question de temps. Je me demandais avec qu'est-ce, j'ai été témoin l'année passée de qu'est-ce que Pat est capable de faire avec une équipe de hockey. Puis je me demandais pourquoi une équipe de la Ligue nationale avait pas déjà appelé pour ses services. Puis là, je suis très, très content que finalement, un gars comme Lou Lamoriello décide d'avoir le guts de lui donner une deuxième chance. Je suis persuadé qu'il ne regrettera pas son choix.
Simon, dis-moi, qu'est-ce que Patrick Roy est capable de faire avec un club de hockey?
Écoute, j'ai été témoin l'année passée de comment que le mot passion, là, c'est un passionné, c'est un gars qui va passer beaucoup d'heures à l'aréna à regarder du vidéo, à regarder d'autres matchs, pas juste des matchs de notre équipe, des matchs d'autres équipes, des matchs de la Ligue nationale. Il veut tout le temps améliorer, il veut tout le temps prévoir peut-être une situation qui va arriver, pas demain matin, mais qui va peut-être arriver dans la game 74 dans la saison ou dans les séries. Il veut jamais se faire surprendre par une équipe avec un jeu truqué. C'est pour moi, là, c'est vraiment ça que j'ai vu de lui. Puis être capable de s'ajuster en cours d'une partie sur des choses que soit que notre équipe qui n'aimait pas que le devoir de notre équipe ou voir de quelque chose que l'autre équipe faisait qu'on devait s'ajuster. Mais Pat, des fois, prenait du temps de regarder une couple de clips vidéo sur la période qu'on venait de jouer et prendre gestes et faire ajustements dès la période suivante. Donc, j'ai eu des très, très bons entraîneurs dans ma carrière, mais je dois dire que Pat, avec tout ce que j'ai vu, là, c'est pour ça que je te dis que je comprenais pas pourquoi il n'y avait pas une équipe de la Ligue nationale qui n'avait pas encore fait à son appel.
On est en conversation avec Simon Gagné, qui a, évidemment, vous le savez, joué dans la Ligue nationale de hockey, mais a remporté la Coupe Memorial avec Patrick Roy derrière le banc avec les Remparts de Québec. Simon, quand Patrick Roy a parlé après à son embauche avec les Islanders de New York, il dit, tu sais, j'ai changé, je suis plus le gars que j'étais. Est-ce que tu as vu la transformation, toi? Qu'est-ce que tu as vu de lui qui n'est pas ce qu'on s'imagine de lui?
Ben, c'est dur parce que moi, je l'ai pas connu comme le monde dit. Moi, je suis arrivé là, le monde me disait, ah, tu vas voir, c'est un one-man show. Au contraire, c'est pas un one-man show. C'est un gars qui s'entoure de bonnes personnes en entour de lui, qui est prêt à donner des tâches. On a beaucoup échangé sur beaucoup de choses. C'est un gars qui est prêt à écouter, qui va penser, va retourner chez eux, va penser à ça durant la nuit, puis le lendemain matin, bon, on va rediscuter des discussions qu'on a eues la veille. Est-ce qu'il a changé? Je pense que tout le monde change en vieillissant. Je pense que Pat, je sais pas, je dirais de la maturité ou vieilli dans de la bonne manière. J'ai aucune idée si c'est ça. Mais comme je te dis, moi, j'ai été témoin du Patrick Roy que j'ai eu toute l'année. Puis l'entraîneur que j'ai vu va super bien fitter avec les Islanders de New York. La chose que je peux peut-être dire, c'est que quand on s'est parlé souvent durant l'année de Ligue nationale, tu sais, quand tu vois les entraîneurs se faire congédier, ben on disait, bon, le nom à Pat va arriver, puis peut-être qu'il va avoir un coup de fil, puis ça venait pas, puis on discutait, tu sais, il va-tu avoir une chance encore d'aller dans la Ligue nationale? Puis Pat, tu sais, si c'est terminé, ça sera terminé, mais on va essayer de finir sans champion avec les Remparts. Mm-hmm. Mais, tu sais, il y avait le goût de revenir dans la Ligue nationale. mais en tant qu'entraîneur-chef et non comme GM ou DG comme le monde des fois pouvait penser.
Mais Simon, écoute, t'as été longtemps dans la Ligue nationale de hockey, tu sais comment ça marche. Tu sais, Lou Lamoriello, là, c'est pas un gars qui a peur de se faire tasser. Son leadership, il est fort. Fait que lui, il a pas peur de Patrick Roy. Il est prêt à assumer des leaders qui sont aussi forts que lui, là.
Ben, peut-être ça va être le exactement. Peut-être que c'est ça que ça prenait. Peut-être que ça prenait un DG de la vieille école, comme qu'on dit, qui est strict. On sait ses règlements, là, qu'on a tout vu Pat se raser.
Ouais, plus de barbe.
Clean cut, plus de barbe. Fait que, tu sais, ça démontre qu'il est prêt à travailler avec lui. Puis, c'est ça que je trouve plate. C'est comme si la réputation à Pat, c'est qu'il veut pas travailler avec du monde. Il est pas prêt, il veut tout contrôler. Non, moi, en tout cas, c'est pas ça que j'ai vu. Il veut travailler avec du monde. Je pense qu'il a changé peut-être de ce côté-là de l'ancien Patrick Roy qui était avec Colorado. Il a peut-être appris de cette erreur-là. Puis là, il est vraiment prêt à travailler en équipe. Parce que moi, comme je l'ai dit, il travaillait en équipe avec les Remparts de Québec. J'ai vraiment pas vu un gars qui était... qui contrôlait tout. La seule chose que je peux peut-être dire, c'est que, tu sais, quand t'es DG et t'es entraîneur-chef, ben contrôle tout. Puis Pat, il aimait ça faire des échanges, il aimait ça d'aller chercher la petite pièce secrète ou la pièce manquante pour aller, tu sais, pour faire la différence à la fin. T'sais, il aimait ça. T'sais, j'ai parlé beaucoup durant la période d'échange dans la ligne junior majeure du Québec. Puis tu voyais que ça, il aime ça parler de hockey. C'est un passionné. Puis c'est peut-être ça qui va lui manquer, mais je le vois beaucoup plus en arrière du banc. Puis c'est un gars qui a de la flamme, qui veut être dans l'émotion, il veut être derrière le banc, ben, c'est exactement ça que Pat va avoir.
OK, tu l'as rappelé là, encore, il n'y a pas longtemps, quand toi, c'était le temps de faire des transactions, tu voulais avoir son inside un peu?
Oui, mais j'ai gardé contact avec Pat quand même assez régulièrement. Puis, tu sais, c'est sûr que même si c'est terminé avec les Remparts, Pat continue à nous voir jouer une couple de fois, continue à regarder nos matchs, puis... Tu veux pas, j'ai appris beaucoup rapidement avec lui l'année passée, mais durant la période des échanges, il m'avait dit regarde, tu peux m'appeler n'importe quand. Puis il y a une couple de fois que j'ai demandé conseil, qu'on s'est parlé une couple de fois, mais disons que le sujet là, de j'avais aucune idée. Là. Comme je te dis, j'ai surpris là, et il m'en a pas parlé, là, ça je peux vous dire.
Hey, je veux dire une chose, on a parlé avec Jacques Tanguay ce week-end dimanche, en fait, hier, et Jacques Tanguay nous disait, tu sais, c'est peut-être arrivé la veille, là. Fait que donc s'il était nommé samedi, ça se peut bien que vendredi il a eu le téléphone et disait ça te tend-tu, viens-t'en, puis c'est là que ça se passe. Là. Ça arrive vite des affaires de même, là.
Bon, ouais, c'est ça, c'est la ligne nationale, puis des fois ça peut se passer très très vite, puis c'est probablement ça qui est arrivé.
Et on est en conversation avec Simon Gagné. Simon, dis-moi donc, comment il était avec les jeunes? Parce que là, tout le monde pense que c'est quasiment un ogre qui mange du monde. Ah, tu sais, je veux dire, comment il était avec les jeunes? Il était-tu cool? Il était-tu sympathique?
Moi, je pense que les gars ont aimé ça. En tout cas, je parle pour nos joueurs l'année passée, là, ont adoré ça jouer pour Pat. C'est sûr que des fois il est demandant, il peut t'en mettre à ta place assez rapidement, mais respectueusement. Mais c'est le gars qui va te parler après la partie, qui va faire des jokes avec toi, puis sa porte est tout le temps ouverte. Parle souvent avec les joueurs. Fait que c'est pas un entraîneur comme le monde voit. Puis qu'est-ce que le monde a vu à la télévision hier, puis qu'on pense que Pat a fait un show puis pour les médias hier, ben c'est vraiment pas ça. C'est ce que j'ai vu hier à la télévision, c'est ce que j'ai vu toute l'année sur la glace. C'est ça, Pat Roy, c'est l'émotion, c'est l'énergie qu'il amène sur la glace. Il veut être le meilleur entraîneur, puis il va tout faire pour que l'équipe soit à son meilleur. Puis on l'a vu dès la première pratique. C'est même pas une pratique, c'est un morning skate de 15-20 minutes. Puis c'est drôle parce que tous les exercices qu'il a fait hier, c'est des exercices qu'on faisait avec les Remparts l'année passée à tous les jours, qui étaient exactement comme ça. Faut que tu sois exactement là, faut que tu sois exactement là. Le défenseur, tu donnes pas à bleu. Faut être bon à ça. Si on veut être bon, si on veut gagner, faut être bon à ça. Puis il pèse tout le temps sur le même clou, là. Puis c'est ça, c'est Pat. Puis regarde, moi je l'ai vu. Ça marche. Puis comme je te dis, être GM dans la Ligue nationale, ça a été mon premier choix, puis je suis content que Lou Lamoriello lui donne une deuxième chance.
OK, Simon, là, j'ai une question, puis je parle pas au coach des Remparts de Québec, mais je parle au gars qui a joué dans la Ligue nationale. Tu as connu des changements d'entraîneur. Le nouveau qui rentre, OK? Là, ton entraîneur est là, il se fait congédier. Le nouveau qui rentre, il est toujours rempli de bonnes intentions. Le nouveau qui rentre, là, c'est un gars du Temple de la Renommée qui tape sa glace, qui criote un peu, qui a la face rouge, qui est intense. Comment les joueurs perçoivent ça dans la Ligue nationale?
Ouais, et c'est sûr que le hockey a changé, mais en même temps, si vous regardez ici au Québec, le Canadien de Montréal, Martin Saint-Louis, qui est un passionné de hockey, qu'est-ce qu'il amène comme dans la chambre un joueur qui a dominé la Ligue nationale, ben je pense que c'est un petit peu la même chose. Tu vois que les gars ont l'air aimé pour jouer pour Martin Saint-Louis, puis c'est le fait d'avoir un Patrick Roy qui arrive là, qui a tout gagné. Il a gagné en tant que gardien de but, il a gagné en tant qu'entraîneur. Est-ce qu'une Coupe Memorial, c'est peut-être tu dis OK, c'est une chance, mais là, il en a gagné deux Coupes Memorial. Là, c'est pas n'importe qui est capable de faire ça. C'est un winner, puis moi, en tout cas, avoir un coach comme ça, je me disais, t'as pas le choix de te donner parce que il travaille fort, tu sais qu'est-ce qu'il va apporter, va porter fruit. Puis n'importe quelle équipe qui struggle ou qui n'a jamais vraiment eu de succès dans les séries depuis très longtemps, comme les Islanders de New York, ben t'as pas le choix d'écouter puis de donner une chance. Puis comme je dis, je crois qu'un entraîneur comme ça, aujourd'hui en 2024, qui n'est pas le même entraîneur qui était au Colorado dans les années 2000, va apporter du succès aux Islanders de New York. Puis je crois que les joueurs ont l'air d'être excités à ça. On a hâte de voir demain matin qu'est-ce que Patrick Roy va nous amener, qu'est-ce qu'il va nous amener. Puis une chose que moi, qui me donnait la chair de poule un peu l'année passée, c'est pas n'importe quel entraîneur qui peut faire ça, là, les speeches d'avant-match, quand tu parles de finale de Coupe Stanley en 93 avec les Canadiens de Montréal ou avec l'Avalanche du Colorado, Patrick faisait des speeches des fois là qui étaient incroyables dans la chambre avant des matchs très importants pour nous l'année passée en série ou à la Coupe Memorial. Fait que il y a un bagage là qu'il peut sortir n'importe quoi de son sac et il est plein de sa valise.
Écoute, Simon, c'est bien intéressant. Merci énormément d'avoir pris du temps pour nous. Puis je te souhaite une bonne saison. Là, vous êtes en reconstruction, les Remparts. J'espère que ça sera pas trop long, parce que j'imagine que tu as le goût de gagner aussi, mais fort apprécier tes propos ce soir, Simon.
Ça fait plaisir. Bonne soirée.
Merci, Simon Gagné, du côté des Remparts de Québec. Lui qui a gagné la Coupe Memorial avec Patrick Roy et qui a évolué pendant plusieurs années du côté de la Ligue nationale de hockey. On s'arrête.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Pour parler du Canadien et de la petite nouvelle qui est tombée ce week-end, un certain Patrick, coach maintenant avec les Islanders, Danny Dubé est avec nous. Salut Danny.
Salut Jérémy.
Danny, on va se parler du Canadien, mais je vais juste prendre une couple de minutes pour jaser de Patrick Roy. Premier match, tantôt on a parlé à Simon Gagné, il me dit, quand j'ai vu les images du Morning Skate, quand je voyais Patrick placer les joueurs sur la glace, j'ai reconnu les exercices qu'on faisait avec les Remparts de Québec. Ce que tu voyais sur la glace, c'est ce qu'il faisait chez les juniors. Il dit, c'est un gars qui s'adapte. Tu sais, c'est pas vrai que c'est un gars qui fait tout seul. C'est un gars qui est ouvert d'esprit. Il a changé. Comment tu penses que ça va se passer avec les Islanders pour Patrick Roy?
Ça va très bien se passer. Très bien se passer parce que la première chose, c'est un nouvel entraîneur doit amener quelque chose de neuf. Tu peux pas avoir un changement d'entraîneur puis rester dans les mêmes teintes. Là, Leland Burtz, c'était vraiment pas le plus démonstratif. Sa passion, il a gardé dans lui, il partageait pas beaucoup. Honnêtement, les Islanders, c'était une équipe qui était un peu fade à voir jouer. Même du temps de Barry Trotz, c'était une équipe qui avait une personnalité plus forte. Là, c'était comme une équipe sans vraie identité, je trouve, parce que on a tenté de faire un virage vers l'offensive. Sans trop de succès, parce qu'on marque peut-être un petit peu plus de buts, mais on en accorde plus qu'avant. Ça fait que, au bout de la ligne, tu sais, t'es pas vraiment avantagé. Alors, les Islanders ont un grave problème d'identité. Puis souvent, l'identité, ça se forge autour de l'entraîneur puis des joueurs clés. Alors maintenant, les joueurs clés sont déjà en place. Est-ce que lui, Patrick, il va être capable de changer ça. Moi, je pense que oui. Je pense qu'il va vraiment amener beaucoup de couleurs dans l'entourage de l'équipe. Puis effectivement, les gens vont voir là-bas, je parle à Long Island, vont voir le meilleur, la meilleure version de Patrick Roy. Il est rendu à 58 ans, il est comme tout le monde, il apprend. Là.
C'est ça, il est mature, puis c'est drôle parce que tu sais, il a dit les bonnes choses quand il s'est fait présenter à la presse pour devenir le nouvel entraîneur. Puis il a dit les bonnes choses après le match. Il dit, excusez-moi, là, j'étais nerveux, puis ça passe vite dans la Ligue nationale. Une chance que mes assistants étaient là. Tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas été en arrière d'un banc. C'est le fun de le voir humble comme ça. L'humilité était au rendez-vous dans le cas avec Patrick Roy.
Oui, oui, ben tu sais, de toute façon, là, ce qui est important, c'est sur le long terme. C'est comment il va gérer les différends avec ses joueurs, comment il va gérer les périodes plus difficiles, comment il va faire dans tout ça, parce que, écoute, moi, je pense qu'il est rendu à un point où il a fait le tour de toutes ces affaires-là. Son arsenal, là, son coffre d'outils, il est plein. Il sait que quoi faire à quel moment avec les outils que lui a développés au fil du temps. Parce que, tu sais, c'est ça la différence. Là. Tu vas avoir 4 coachs, tu vas avoir 5 coachs, tu prends les 5 entraîneurs, tu lui donnes la même équipe, puis tu n'auras pas le même résultat. Là. Pas juste victoire-défaite, mais dans la façon de faire. Parce que c'est la matière première, c'est ton équipe, puis l'entraîneur, lui, doit faire avec ça. Puis moi, je pense que c'est au fil du temps ce que Patrick a appris à faire. Maintenant, je te dis ceci, il reste quand même une zone grise. Puis la zone grise, c'est quoi? C'est que partout où Patrick a été, il a été le maître d'œuvre. Il était le chef à bord. Là, il y a vraiment une situation où, oui, je comprends là, que ceux qui ont travaillé avec, ils disent, oh, c'est le fun, tu sais, ils partageaient, ils parlaient. Oui, mais c'est le boss. C'est le boss pareil. Mm-hmm. Quand il va se faire dire, non, tu fais pas ça. Non, 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 c'est ça que je veux. Parce que ça arrive, là. Les directeurs généraux qui descendent et disent, hey, comment ça qu'ils disaient ça à la glace, lui-là, là? Qu'est-ce qu'il faisait là? Ouais, mais on avait pensé. Non, non, mais qu'est-ce qu'il faisait là? Ça arrive, là.
Mais j'espère que.
En Ligue nationale, ça arrive régulièrement.
J'espère que Lou Lamoriello s'attend à se faire obstiner un petit brin, là.
Ben, je pense que Lou Lamoriello.
C'est pas dans le sens négatif, mais que Roy va donner son opinion, là.
Ben, écoute, je pense pas qu'il est allé chercher une marionnette, là.
Non, clairement.
Puis je pense aussi que au fil du temps, les entraîneurs qu'il a engagés, tu sais, qui a toujours eu du succès avec les gars du Canadien, c'est avec eux autres. Moi, c'est le premier réflexe que j'ai eu.
Oui.
Je dis, bon, il vient encore piger dans la filière ancien Canadien. C'est de Jacques Lemaire, de Jacques Lemaire à Pat Burns, en passant par Larry Robinson, Claude Julien, etc. Ils ont tout pris, là. Ils ont passé à Montréal, puis ils ont tout ramassé, sans parler des entraîneurs adjoints, là. Écoute, donc c'est encore la même chose. Si t'as été capable de travailler avec Jacques Lemaire, qui quand même Jacques a une tête dure, là.
Je pense que oui.
Je pense qu'il fait comme il veut, là.
Oui.
Et Lou Lamoriello et lui se sont entendus comme deux poissons dans l'eau, la ronde en foire. L'expression que tu veux, choisis-la, ça revient au même. Et les gars travaillaient bien ensemble. Donc, moi, je m'attends pas vraiment à ce qu'il y ait de problème, mais tu me demandes, est-ce qu'il y a une zone grise? La zone grise, c'est celle-là parce que jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu de Patrick, ça a toujours été, il a toujours été le maître d'œuvre. Alors là, il va avoir un partage des pouvoirs, puis ça va être intéressant de voir comment il va travailler là-dedans.
Danny, parlons du Canadien. S'il te plaît, peux-tu m'expliquer ce qui se passe en défensive chez les Canadiens? Là, on a fait un rappel, on a envoyé Byron dans la Ligue américaine, on a rappelé Jack Eye. Dans le dernier match, en troisième période, j'ai l'impression que Boston pouvait se promener comme il voulait devant le filet de Samuel Montembeau avant qu'on l'envoie au banc. Et qu'est-ce qui se passe défensivement? Chez les Canadiens?
Ben, la chose qui se passe défensivement, c'est que aussitôt que le Canadien ne bénéficie pas d'un gardien de but A1, l'équipe est ébranlée. Si tu regardes les victoires du Canadien, là, le gardien joue pour 910 ou plus. Approx. On peut baisser de 1% un soir, là, mais 909, mettons. Là. Mais autour de 910, là, s'il ne joue pas pour 910, il ne gagne pas. Donc, ça veut dire, en d'autres mots, t'as pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc, déjà, ça, c'est un élément. L'autre chose, c'est que si les attaquants viennent pas prêter main forte aux défenseurs, oublie ça. Si la structure colle pas ensemble, oublie ça. Puis l'autre chose, c'est que le Canadien, c'est une équipe qui est pas robuste. C'est une équipe qui manque de robustesse. L'autre soir, Tkachuk, c'est 6 mises en échec. Il a étampé dans la bande, comme on dit en bon québécois, là, toute la gang. Ils ont tout passé, là. Matheson, Goulet, ils couraient après tout le monde, toute la soirée, là. Moi, je l'ai dans mon cahier de notes, là. J'ai pas regardé le match comme les entraîneurs le font, là, mais j'ai au moins 5 à 6 séquences où des joueurs du Canadien, des joueurs clés, là, c'est le capitaine, les assistants, tout le monde se fait ramasser, mais solide, là. Ils se sont fait frapper l'autre soir. Des grosses mises en échec. Alors, à un moment ou l'autre, là, le Canadien revient sur sa patinoire. Moi, je pense que l'Arsenal doit être bonifié un peu. Et c'est sûr que Jack Eye, là, faut pas qu'il se mette à courir partout, là. Mais honnêtement, la présence physique, lui et Mayhew, quand les deux vont être à maturité, j'essaie de m'imaginer si un soir ça décide de brasser, qu'est-ce qui va se passer. Tu sais, ça. Puis là, je suis pas en train d'encourager ça. Je suis juste en train de dire que ça prend les gros joueurs à défense. Mm-hmm. Et déjà, je pense que Strobel, dans le jumelage, là, tu rajoutes Jack Eye. D'après moi, ça va ralentir les élans, les McEwen, les Kubalik, toute cette gang-là, là, puis évidemment Kachuk, parce que lui, c'est le chef de file.
Et sans pour autant juste parler de gars qui peuvent jeter les gants, le hockey de série, c'est un hockey qui est robuste. Cette équipe-là du Canadien, c'est une équipe qui est extrêmement rapide en relance, il y a beaucoup d'attaques, mais du hockey de série, là, on n'est pas dans bonne dynamique présentement. On a besoin de. Il va falloir que ça soit plus intense un petit brin parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Là.
Non. Ben, tu sais, je faisais l'exercice ce matin parce que on enregistrait notre balado, Martin et moi, puis je lui rapportais que depuis le début du mois de janvier, le Canadien a joué 10 matchs. Okay? Jusqu'à date, là, il joue pour 500. Bon, tu sais, je veux dire, c'est correct, c'est pas la fin du monde, là. Il joue pour 500. Mais au niveau des tirs au filet, la moyenne est assez, c'est assez significatif, la différence entre les tirs accordés et les tirs au filet adverse. On parle de 37 tirs accordés à l'adversaire en moyenne et on parle de 27 tirs en moyenne sur le filet adverse. Donc, quand tu as des écarts comme ça, là, un jour ou l'autre, ça finit par te rattraper. Puis là, j'ai devant moi la fiche des gardiens de but pour les victoires du Canadien et la victoire du Canadien dans le mois où on a eu le moins besoin du gardien, c'est Montembeau qui a joué pour 909. À part ça, là, les points du Canadien ont été ramassés alors que les gardiens ont joué du hockey de
haut niveau, là.
De haut niveau, là, 920, 915, 910, 917, 937, tu sais. Écoute, c'est comme ça, là. Et avant la dégringolade, là, l'autre soir, Montembeau jouait pour, il avait donné 13 buts sur 187 tirs, c'est 930 de pourcentage d'efficacité. Okay, t'sais.
Va falloir, je sais pas si c'est une question de maturité puis de confiance, mais il va falloir.
C'est une question de profondeur.
De profondeur, oui.
Oui, il n'y a pas assez de profondeur dans l'équipe. Puis, tu arranges ça comme tu veux, là, ta ligne de centre est vraiment affectée.
Hey, justement, là-dessus, excuse-moi, Danny, je te coupe, là,
non,
mais,
je t'en prie, vas-y.
Mais Mitchell Stephen s'en va, en tout cas, au balotage. S'il n'est pas réclamé, il s'en ira avec le Rocket. Mm-hmm. Comment tu la vois, la ligne de centre? Qui va jouer au centre?
Ben écoute, honnêtement, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont en tête comme gymnastique, parce que ce qu'on entend, c'est que en plus Monahan et les petits bobos. Est-ce que
Pearson peut jouer au centre?
Pearson peut jouer au centre. Il a déjà patrouillé la ligne de centre. Je pense que c'est dans le meilleur des mondes. Ils veulent pas toucher à leurs deux premiers trios. Donc est-ce que tu gardes Armia quand même? À la même position où tu le déplaces au centre, je sais pas, tu sais, pour un match, pour deux matchs, ça reste à voir. Mais c'est sûr que Pearson, pour moi, c'est la meilleure option s'il est prêt à jouer, là.
OK. Ben écoute, ça sera observé parce que là, clairement, il va nous manquer un joueur de centre si on ne met pas Pearson au poste de centre. Écoute, Danny, avant qu'on se quitte, là,
oui?
Pas pire semaine pour le Canadien. Ottawa, Islanders et le Pittsburgh. Écoute, si t'es pas dedans, ça sera pas trop long, ça va être fini.
Ben regarde, tout à l'heure, je te disais, je regarde les mois depuis le début de l'année, là, jusqu'à ce point-ci, le Canadien a gagné 5 matchs par mois au moins. Le pire mois, c'était le mois de novembre. Il joue pas 357. 5 victoires, 9 défaites. Les autres mois, on est à 500 ou plus. Il faut absolument que le Canadien réussisse à aller chercher 4 points sur 6 pour être capable de se positionner en haut de 500. Tu sais, de 538, ils vont chercher 4 points. Fait que là ça les garde dans le, ça les garde dans le paquet. Ils sont dans la course. T'sais. En tout cas, je pense que tout le monde comprend que ce que l'équipe veut, c'est jouer des matchs significatifs d'ici la fin de l'année, puis voir, pour être capable d'évaluer leur personnel. Parce que quand tu commences à jouer des matchs non significatifs, c'est sur l'évaluation de personnel que c'est difficile. Mm-hmm. Parce que ça se peut qu'un joueur te joue un très bon match un soir, puis tu dis, ouais, mais le match compte pas. Puis moi, ça me tue. Écoute, je suis pas capable d'entendre ça. Parce que les matchs sont quand tu joues contre une équipe, l'équipe doit gagner. Pourquoi toi, ton match, il n'y a plus de signification quand l'autre doit gagner? C'est sûr que lui aussi, là, tu sais, je veux dire, chaque, les points sont difficiles à gagner dans la ligue. Tout le monde veut gagner. Donc, tout est important. Puis pour le Canadien, de ne pas être exclu des séries mathématiquement, d'avoir une chance de continuer de se battre, pour moi, là, c'est vraiment extrêmement important. Tantôt, je t'ai dit 3,7, hein, mais c'est 39 tirs en moyenne par match que le Canadien a accordé depuis le début du mois.
OK, ben là, je corrige ma note. J'avais noté de 3,7. Voilà. je prends la bonne note. Danny, hey, ça fut un plaisir.
Hey, c'est juste deux tirs de plus.
Ben alors, écoute, une babiole. On vous écoute demain pour le match entre le Canadien et les Sénateurs. Merci beaucoup, Danny.
Oui, comme ils disent, c'est juste des chiffres.
C'est juste des chiffres. Merci
ça,
beaucoup, Danny.
Ça compte pas. Salut. Tu regardes la game.
C'est ça. Salut, Danny. Bye-bye. On s'arrête là-dessus, justement. Les Sénateurs seront de passage demain au Centre Bell pour affronter le Canadien. Comment on réagit là-bas de voir Patrick Roy maintenant entraîneur-chef? Tout le monde disait Ottawa, c'est la place pour Patrick Roy. Sylvain Saint-Laurent, qui est journaliste sportif à la couverture des Sénateurs d'Ottawa, sera avec nous au retour. Restez là.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Demain, le Canadien qui fera face aux Sénateurs d'Ottawa. Pour nous en parler, il est attitré à la couverture des Sénateurs et journaliste sportif. Sylvain Saint-Laurent est avec nous. Salut, Sylvain.
Salut, Jérémy.
Bon, Sylvain, oui, on va se parler Canadien-Sénateur, une petite affaire tantôt, mais je veux savoir, Ottawa, comment ça réagit quand on a entendu samedi que les Islanders de New York prenaient Patrick Roy comme entraîneur-chef? Tout le monde pensait que ça s'en allait à Ottawa. Comment ça réagit?
Écoute, je vais te dire, je pense que tout le monde au Québec, en dehors de l'Outaouais, pensait que Patrick Roy s'en allait à Ottawa. Je pense que Montréal puis autour, là. Je vais t'avouer, à chaque fois qu'il y a une station de radio de Montréal m'invitait à l'entrevue, c'était souvent pour parler de Patrick Roy, mais en dehors de ça, je te dirais que Roy a jamais été mentionné dans les rumeurs. Vraiment. Il y en a des gens qui ont été mentionnés dans les rumeurs, mais moi, j'ai pas été si surpris que ça. Okay. Que Patrick Roy se trouve du travail ailleurs.
OK. Fait que donc, toi, tu me dis Ottawa, dans l'entourage de l'équipe, le nom de Roy n'a jamais passé avec beaucoup d'étincelles, mettons. Là.
Ben, en fait, écoute, quand DJ Smith a été embauché, Patrick Roy avait été passé en entrevue, mais Roy est arrivé un peu tard dans le processus parce qu'il était en vacances au moment où Pierre Dorion faisait les autres entrevues. Puis Dorion avait reconnu que Roy avait fait une très, très bonne entrevue. Puis il avait, à ce moment-là, quand il l'avait rencontré, il avait pas mal pris cette décision d'embaucher DJ Smith, mais que Patrick Roy l'avait fait sérieusement réfléchir. Il a failli changer d'idée. Mais ça, on est en 2019 à ce moment-là, fait que ça fait 5 ans déjà. Je te dirais que je te dis pas que c'était pas un bon candidat pour les Sénateurs, je te dis juste que je trouve ça bizarre que justement au Québec, à Montréal, c'était une idée qui était reçue là, que Roy devenait l'entraîneur des Sénateurs, mais à Ottawa, ça dans le marché d'Ottawa, les gens n'étaient pas si convaincus que ça.
OK, parfait. Par contre, peut-être que de l'extérieur, on voit ça, on se dit Ottawa est entre Toronto et Montréal. Si tu amènes Patrick Roy, tu vas aller chercher Franco. Tu vas avoir une rivalité avec le Canadien. Tu vas avoir une rivalité avec Toronto. Peut-être que pour nous, on faisait l'équation et on se disait ben voilà le candidat parfait.
Ah non, puis écoute, je veux dire, son pedigree à Roy, il est bon. Là. C'est un ancien champion du vainqueur du trophée Jack Adams. Il est retourné dans le junior où il s'est bâti une équipe avec laquelle il est allé remporter la Coupe Memorial, puis je veux dire, je parle même pas de son passé de joueur. Là. Les Sénateurs ont besoin d'un gagnant. Patrick Roy, c'était certainement un gagnant. Cela dit, c'est je sais pas. Steve Staios, c'est un homme très 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 discret, très secret. Il nous a jamais parlé de ses préférences et il n'y a pas d'informations qui circulent. Mais je suis pas certain que dans le cas de Staios, Roy était au sommet de sa liste.
Mmh, c'est dommage. Moi, je regarde la fiche des Sénateurs, 17-24, 1, 35 points, 42 matchs. Honnêtement, c'est un meilleur club de hockey que ça?
Oui, effectivement. C'est un club qui, je crois, qui aurait probablement dû changer d'entraîneur plus rapidement. Mm-hmm. On a enduré DJ Smith un peu trop longtemps. C'est un club qui a bien fini la saison 2022-2023. Mais en 2023-24, quand ça a très mal commencé, puis à un moment donné, je veux dire, ça reste une équipe très jeune. Puis quand ça a commencé à mal aller, les leaders de cette équipe-là qui sont jeunes, je parle de Brady Kachuk, Tim Stadula, ont pas su gérer leurs émotions comme il faut. Fait qu'au lieu de s'en sortir éventuellement, on a vu une spirale, là, puis ça a descendu jusqu'à tout récemment. Il y a eu trois très mauvais mois de hockey pour les Sénateurs cet automne.
Est-ce que Jacques Martin, ça fait la différence selon toi?
Ben, écoute, le premier mois de Jacques Martin, on a regardé les statistiques, puis au bout d'un mois, les statistiques des Sénateurs étaient moins bonnes sous Jacques Martin que sous DJ Smith. Par contre, si on regarde les quatre derniers matchs, on constate que les Sénateurs ont livré, je te dirais, pas loin de quatre performances de 60 minutes. Là, vous allez vous souvenir du match où les Sénateurs ont battu le Canadien. Ensuite de ça, il y a eu une défaite très, très serrée où ils sont butés à Connor Hellebuyck. Et puis, hier après-midi à Philadelphie, une performance très, très, très inspirée. Écoute, à Ottawa, ça fait tellement longtemps qu'on est habitué à la défaite, puis à tout ça, on n'ose pas trop s'emballer. Mais dernièrement, si tu regardes la dernière semaine, une semaine et demie, on a l'impression, tranquillement, pas vite, qu'on voit des signes encourageants.
OK. Si on regarde Steos, qui est la tête dirigeante pour une vue opération hockey, est-ce que c'est possible de prévoir vers où il va se tourner vers le prochain entraîneur? Est-ce que on est capable de voir des tendances? Je sais qu'il commence avec l'organisation des Sénateurs, mais selon son bagage, selon ses connexions, est-ce qu'on est capable d'établir une certaine tendance?
Mais c'est un jeune directeur général, c'est qu'on n'a pas vraiment vu beaucoup d'embauches de sa part ailleurs qui pourraient, par exemple, donner un patron des préférences. Il y a eu tendance jusqu'à maintenant à s'entourer d'amis. Puis Steos a travaillé avec Hamilton dans l'hockey junior majeur sous Michael Emblauer, le propriétaire. Fait que il y a deux noms qui circulent beaucoup, John Gruden et puis Jay McKee, qui ont été des entraîneurs des Bulldogs de Hamilton. Maintenant, ça, c'est deux jeunes entraîneurs de la relève. Est-ce que les Sénateurs ont besoin d'un entraîneur de la relève ou d'un entraîneur qui a de l'expérience puis qui a du vécu puis qui pourrait peut-être justement entrer dans le vestiaire puis avoir un ascendant sur les jeunes? Moi, j'ai l'impression que c'est plus ça que ça prend. Puis ça, on n'en connaît pas les amis de Steve Steros qui appartiennent à la génération des 50-60.
J'allais dire, en fait, les Sénateurs ont besoin d'un nouvel amphithéâtre, de vendre des tickets, de s'assurer de sa clientèle. Ils ont des défis corporatifs, honnêtement, les Sénateurs d'Ottawa.
Ah, écoute, je veux dire, quand Michael Emblauer a acheté l'équipe, il savait très, très bien qu'il ramassait une organisation qui a passé 5 très, très mauvaises années pour toutes sortes de raisons. Puis ça, effectivement, ce que tu viens de mentionner là, ça en est un problème. Je veux dire, l'équipe a eu beaucoup de difficultés avec ses partisans, avec ses partenaires corporatifs locaux. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. On pensait que si l'équipe commençait à gagner, ça aiderait beaucoup de choses. Malheureusement, c'est pas ça qui s'est passé. Fait que Michael Lauer va être le premier à le reconnaître. Si jamais un jour vous lui parlez, ça va être un gros chantier à amener les Sénateurs au niveau où il était peut-être il y a 15-20 ans.
Sylvain Saint-Laurent, avant de se quitter, crois-tu que les Sénateurs vont donner un autre varlope aux Canadiens demain?
Écoute, moi je m'attends à ce que Martin Saint-Louis, qui est un des très bons entraîneurs de la Ligue nationale de hockey, prépare son équipe et puis que ce soit un match beaucoup plus serré.
Ben, et on le souhaite, parce que disons que ça a été pas mal à l'avantage des Sénateurs le dernier duel. Sylvain, Saint-Laurent, toujours un plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
N'importe quand, à la prochaine.
Merci, au revoir. Sylvain Saint-Laurent, journaliste sportif à la couverture des Sénateurs d'Ottawa. Ouais, mais on a des enjeux du côté des Sénateurs, et c'est drôle, hein? Sylvain nous dit, partout au Québec, tout le monde croyait que Patrick Roy allait aboutir avec les Sénateurs. Nous, à Gatineau, l'Outaouais, Ottawa, personne ne parlait de Patrick Roy. Comme quoi, des fois, hein, vu de l'extérieur, c'est toujours mieux. À l'interne, c'est autre chose. On pense à autre chose. Mais, t'es un jeune club, tu connais des mauvais débuts de saison, et là, je parlais de l'affiche des Sénateurs d'Ottawa. 17, 24, 1, 35 points en 42 matchs. C'est pas une fiche pour le talent qu'il y a dans ce club-là. Sincèrement, s'il y a quelqu'un qui est capable de me convaincre de ça, ben, on va s'obstiner longtemps parce qu'il y a du talent, il y a une belle relève, on a besoin peut-être de peaufiner un peu en défensive, mais clairement, ce club-là est supposé d'être ailleurs qu'au dernier rang de la division dernier rang, là, présentement, comme meilleur deuxième, de 35 points, là, c'est dernier rang dans l'Est. On est capable de mieux que ça, j'en suis convaincu du côté des Sénateurs d'Ottawa. On s'arrête là-dessus, puis au retour, on s'est parlé de cette journée spéciale de samedi. Hein. On s'est dit, vous étiez peut-être à la maison en train de préparer votre souper pour tu sais, votre avant-match Canadien-Bruins, puis tranquillement, pas vite, pas que le téléphone, notification arrive, Patrick Roy, nouvel entraîneur des Islanders de New York. Eh bien, ce gars-là était à Boston, se préparait, lui, pas pour un souper, pour un duel entre le Canadien et les Bruins de Boston pour le compte d'RDS. Et là, il doit planifier que après le match, on prend une voiture, on s'en va du côté de New York parce qu'il y a conférence de presse et surtout, comment on a vécu cette première journée de Patrick Roy. Donc, Patrick Friolet d'RDS qui a fait ce voyage-là, qui a roulé tôt le matin, qui s'est rendu jusqu'à New York, sera avec nous au retour pour nous expliquer la folie furieuse de cette bombe médiatique ce week-end. Patrick Roy avec les Islanders de New York. On s'arrête quelques instants, 21h31, mais surtout, on vous souhaite une excellente journée, en fait, une excellente soirée à notre antenne et merci d'être là au Réseau Cogeco.
Au Réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
Bon, samedi, ce fut une journée assez spéciale parce qu'il y avait un bon duel canadien-Bruins qui s'est fini en varlope en troisième période. Mais il y a eu aussi une affaire, ça s'appelle Patrick Roy maintenant avec les Islanders de New York. Il a vécu quelque chose d'assez sensationnel après le match de Boston, embarque dans la voiture, s'en va à New York, va couvrir le point de presse, voit les premiers coups de patin de Patrick Roy avec sa première, avec son équipe des Islanders. Patrick Friolet d'RDS est avec nous. Salut Patrick!
Salut Jérémy, ça va bien?
Ça va bien toi?
Ben oui, écoute, c'est juste un petit correctif, c'était en avion, mais quand même, j'ai fait la transition entre les deux.
Écoute, ben là, étant donné que c'est en avion, on n'a plus de temps pour toi, c'est super fun, merci beaucoup Patrick. Non mais Michel Lebel qui me dit, non, il l'a fait en voiture, là, je t'en demande, hey, le gars, il est fort, mais l'avion, écoute, félicitations. Tout ça pour dire, écoute, c'est une bombe médiatique qui s'est passée samedi. T'étais là au premier coup de patin de Patrick Roy sur la patinoire avec les Islanders de New York. Le gars, il était intense, là. Il était vraiment intense, même au morning skate, là. Le gars était là, il était prêt, là.
Ben, c'était vraiment incroyable. Pour vrai, là, j'ai vu souvent des séances d'entraînement matinales de match. J'ai vu des séances d'entraînement qui étaient intenses. Mais les matins de match, habituellement, tu le sais, Jérémy, ça dure 15-20 minutes, des fois peut-être 25. On a quelques exercices pour simplement prendre un peu de rythme, se faire des passes, travailler un peu sur certains aspects. Par la suite, les joueurs vont pratiquer leur lancer, quelques différentes séquences là, qu'on veut peaufiner pour le match. Mais là, ce qu'on a vu, c'est un entraîneur qui embarque sur la glace puis qui donne 15 minutes, mais qui donne 15 minutes à fond la caisse, à 200%. Il a réuni ses joueurs au milieu de la glace. Puis, tout à coup, c'est parti. On a travaillé dans la zone défensive, on a travaillé de la transition. Et à chaque exercice, Patrick Roy qui montait le ton. En fait, montait pas le ton de façon fâchée, mais il était très intense dans ce qu'il demandait. On l'a vu, les séquences, là. Je vous invite à aller voir sur RDS, mon caméraman Renaud Bérubé qui a capté des bonnes images. Puis, on a présenté des pleins sons, justement, où on le voit crier, on le voit taper le bâton sur la glace. Il voulait vraiment que ce soit intense pour passer son message pour le premier match.
Comment c'était le point de presse quand on l'a présenté, quand Lou Lamoriello est avec lui en point de presse? On l'a senti rempli d'humilité, être là, puis sans, tu sais, une maturité. Comment t'as vécu ça, toi?
Ben, c'est ça que j'ai aimé, c'est la dualité, parce que là, je vous parle de son intensité sur la glace, puis une fois dans les points de presse, autant le point de presse du matin du match que celui dans l'après-match, j'ai vu vraiment un Patrick Roy posé, calme, réfléchi et qui admet avoir acquis de l'humilité dans les dernières années. Parce que ça n'a pas été évident pour lui, là. Évidemment, il a connu du succès rapidement avec l'Avalanche du Colorado. Puis ce qu'il nous a dit, c'est « j'ai peut-être pensé que ça allait être facile ». Mais finalement, il s'est rendu compte que il pouvait y avoir des moments difficiles, puis ça a été très long avant qu'il obtienne sa deuxième chance dans la Ligue nationale. Et entre-temps, ben oui, il y a eu beaucoup de succès avec les Remparts de Québec, puis ce qu'il disait, c'est « j'ai vraiment appris à respecter le travail d'entraîneur-chef ». Je pense que il devait se dire « bon, je suis capable, là, je suis capable d'être entraîneur-chef dans la Ligue nationale, je le sais comment ça marche ». Mais le fait de retourner dans les rangs juniors, il a peaufiné son art. Puis moi, ce que j'aime beaucoup, Jérémy, là, c'est que, tu sais, à travers tout ce qu'on a entendu parler de Patrick Roy au cours des dernières années, le fait qu'il était difficile à négocier avec lui, c'est Lou Lamoriello, qui est le plus âgé des directeurs généraux de la Ligue nationale, qui est là depuis 1987. Il était président des Devils du New Jersey à l'époque, directeur général. Ben, c'est lui qui a rouvert les portes à Patrick Roy. Les plus jeunes avaient peut-être peur. Il y en a peut-être qui l'ont approché aussi. Il a fait partie du processus peut-être pour certaines équipes, mais c'est Lou Lamoriello qui est réputé pour être un DG très rigide, qui dit « Hey, savez-vous quoi? Moi, je vais l'engager, Patrick Roy. Moi, je crois en lui. » Puis, il veut vraiment, il veut qu'il donne un second souffle à son équipe pour la fin de la saison. Moi, je trouve ça beau d'une certaine façon parce que Patrick Roy arrive, il va avoir un DG qui a beaucoup de vécu, beaucoup d'expérience, et il va retomber en contrôle de cette situation-là, puis ça va peut-être lui ouvrir des portes dans d'autres organisations par la suite.
Patrick, on discutait tantôt avec Danny Dubé, puis Danny nous dit, tu sais, si Lou Lamoriello était capable de dealer avec Jacques Lemaire, d'après moi, il est capable de dealer avec Patrick Roy. Tu sais, il y a des bonnes chances. C'est clair. Oui. Hey, je veux savoir d'un point de vue, c'est technique, là, ok, d'un point de vue technique. Vous êtes assis dans la salle pour le point de presse. Patrick Roy rentre. En fait, Lou Lamoriello entre. Roy entre, il s'assoit. La conférence de presse. À un moment donné, Patrick Roy lève la tête puis il voit qu'il y a des Québécois. Est-ce qu'il était surpris de vous voir là? Ben non, lui, il s'attendait à ce qu'il y ait du monde du Québec qui soit là.
Je pense qu'il s'y attendait un petit peu. On était très nombreux quand même là dans les circonstances. On était 6 représentants des médias du Québec. Donc oui, il y en a qui, comme moi, sont partis de Boston. Exemple, mon collègue Renaud Lavoie de TVA, lui justement l'a fait en voiture. Marc-Antoine Godin de Radio-Canada aussi l'a fait en voiture. Il y en a qui sont partis de Montréal comme Guillaume Lefrançois. Bref, on était plusieurs. Et moi, ce que j'ai particulièrement aimé, je veux saluer là, les Islanders parce que à travers tout ça, autant le matin du match qu'après la rencontre, chacun de ces journalistes-là, on a tous pu poser une question à la fin du point de presse. Évidemment, ça a commencé en anglais avec les journalistes des Islanders qui couvrent l'équipe sur une base régulière. Mais j'ai même pris la peine de remercier parce que on a respecté ça. On a respecté qu'il y avait beaucoup d'attention. Puis je peux vous dire que si jamais les Islanders réussissent à se classer pour les séries, ben il va y avoir des journalistes qui vont probablement se déplacer pour aller couvrir tout ça, parce que faut pas oublier là, il y a pas seulement Patrick Roy, il y a Jean-Gabriel Pageau qui est un Québécois qui est là, Samuel Bolduc, on a parlé à Mathieu Barzal en français aussi dans le vestiaire.
Attends une minute, c'est toi qui as fait l'entrevue, j'ai vu l'entrevue, oui. Je savais pas qu'il parlait français, il a pris ça où? C'est un gars de Vancouver ça?
Oui, exact. Mais il a quand même appris son français un peu à l'école. Évidemment, dans le passé, on a tenté de faire des entrevues un petit peu plus en français avec lui. Je pense qu'il était peut-être plus réservé. Mais j'ai l'impression que d'être dans l'environnement, je te donne un exemple, là, après le match hier, je parle à Jean-Gabriel Pageau dans le vestiaire. Puis là, Barzal passe en arrière, puis il nous lance « Hey, les gars, vous n'aurez pas le choix de revenir si on fait les séries. Hein, on va vous voir plus souvent. » Mais il dit ça en français.
Wow.
Donc, je trouve ça vraiment intéressant parce que de baigner avec des gars comme ça, j'oublie aussi Julien Gauthier à qui on a parlé hier. Bref, c'est un environnement francophone, puis ça va être différent. Puis justement, du côté des relationnistes, je pense qu'il va falloir qu'on apprenne quelques mots de français pour pas être pris trop au dépourvu avec les colères de Patrick Roy à certains moments.
Hey, juste en terminant, Patrick Friolet d'RDS, je veux savoir comment toi t'as réagi quand t'as su que s'en allait avec les Islanders. As-tu été surpris?
Oui, j'ai été surpris, c'est sûr. Je pense que tout le monde, ça a eu un peu l'effet d'une bombe parce que, évidemment, on entendait beaucoup parler des Sénateurs, tu sais, mais j'ai trouvé ça, quand je me suis mis à y réfléchir, je me suis dit, hey, savez-vous quoi, les Islanders, là, je trouve pas qu'ils ont une si vilaine équipe, puis ils sont quand même juste à 2 points des séries. Est-ce que c'est une équipe qui peut se rendre loin? Peut-être pas, mais à tout le moins bâtir quelque chose déjà. Puis avec un entraîneur comme lui, là, justement, quand j'y réfléchissais, je me suis dit, ça fait quand même du sens. Puis c'est quand même une organisation qui a une certaine histoire. Puis il y a un lien intéressant à faire avec Lou Lamoriello, qui a constamment été chercher des anciens du Canadien au cours de son parcours. Il a travaillé avec Claude Julien, Larry Robinson, Pat Burns, pour nommer seulement ceux-là. T'as parlé de Jacques Lemaire, évidemment, tantôt. Donc, il y avait quand même... Je pense que Jacques Lemaire, il ne faut pas oublier qu'il a probablement un rôle à jouer parce qu'il fait partie de l'organisation. Il sert un peu de conseiller à Lou Lamoriello. Puis, il a une belle relation avec Patrick Roy depuis plusieurs années. Donc, à ce niveau-là, il y a certainement eu quelque chose qui s'est passé là. Puis, Patrick Roy, écoute, arrive dans un environnement où on va lui donner vraiment l'opportunité de faire ce qu'il est capable de faire. Puis avec toute l'intensité qu'on lui connaît, ça a été vraiment remarquable. Puis même de la galerie de presse, Jérémy, tu sais à quel point c'est haut, là. Mm-hmm. Ben, pendant le match, on entendait très bien Patrick Roy encourager ses joueurs. criait à ses défenseurs qui patinaient avec la rondelle de « Allez, vas-y, fais une passe! » Donc, c'était vraiment impressionnant de voir ça d'en haut. Honnêtement, une belle intensité qui a transporté ses joueurs. Est-ce que on peut maintenir ça là, pendant des mois à venir? À un moment donné, ça va peut-être devenir essoufflant. Mais pour ce qui est de la première impression, je me souviens, Joël Bouchard m'avait déjà dit « Quand tu es un nouvel entraîneur avec une équipe, faut que tu fasses du sens vite. » Donc, faut que tes joueurs croient en toi rapidement. Faut que ton message soit clair dès le départ. Faut pas que ça soit gris. Faut que ça soit noir ou blanc. Puis à ce niveau-là, je pense qu'on peut vraiment dire mission accomplie pour Patrick Roy. À tout le moins pour le début.
Bon, ben, Pat, écoute, je te remercie énormément. Puis j'ai le goût de te dire en terminant. C'est pour ce genre d'événement-là qu'on fait cette job-là. Hein. C'est quand il se passe quelque chose de spécial tellement. De même que t'allumes. Puis, tu sais, j'imagine que l'adrénaline n'a pas tombé jusqu'à temps que le match se termine, là.
Ben l'adrénaline est tombée aujourd'hui quand je suis revenu chez nous, je te dirais, parce que hier, avec à peu près 2 heures de sommeil dans le corps, ça a été une très longue journée avec la conférence le matin, le match le soir, mais c'est tellement stimulant, tu le dis, c'est pour ça qu'on fait ça. Il y a, spontanément, on appelle le patron, « Hey, as-tu besoin que je fasse un arrêt à New York ou tu vas envoyer quelqu'un? » Puis finalement, ben voilà, j'ai été la personne choisie, puis j'ai vraiment vécu quelque chose de spécial. C'est le genre de situation que dans 10, dans 15 ans, tu y repenses, tu te dis « Ah oui, c'est vrai, je me souviens, j'étais là, j'ai couvert la conférence de Patrick Roy, puis sa première victoire, ça se termine en prolongation en plus, vraiment une belle journée pour lui. Puis même lui nous a dit « Je pense que je vais bien dormir ce soir après le match d'hier. » Mais là, rapidement, là, tu sais, c'est déjà un match demain contre les Golden Knights, puis jeudi, la grande visite à Montréal, ça va être excitant à suivre, ça, c'est certain.
Bon, ben, Patrick, merci énormément. Va te reposer, puis un gros merci pour le récit de cette belle aventure, et on écoute tes reportages sur les ondes d'RDS. Patrick Friolet, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
C'est vraiment apprécié. Merci, Jérémy. Puis oui, je m'en vais poser la tête sur l'oreiller.
Bon dodo. Merci, Patrick. Au revoir. À la prochaine. Merci, Patrick Friolet d'RDS, qui nous racontait l'épopée de ce week-end endiablé sur la planète hockey.
Les amateurs de sport.
C'est 23.